Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado « Les petits caractères ». Qu'est-ce qui se passe avec le voyage que j'ai payé et qui a été annulé? Je n'ai aucune nouvelle de ma compagnie aérienne. J'ai acheté des meubles en ligne, ça devait m'être livré en 3 semaines, mais ça fait 3 mois et je n'ai rien reçu. Qu'est-ce que je fais? 2 fois par mois, les avocats d'Options Consommateurs et moi allons décortiquer tout ça pour vous pour que les petits caractères, vous savez, ceux qu'on ne lit jamais, vous cause le moins de soucis possible. Vous souvenez-vous de ces émissions en caméra cachée où une victime, le plus souvent un comédien ou une vedette, se faisait piéger? La plus célèbre de ces émissions, et là je vais trahir mon âge, surprise, surprise, avait été diffusée au Québec à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais la caméra cachée, dont on parle aujourd'hui avec Alexandre Plourde, avocat à Options Consommateurs, n'est ni drôle ni sympathique, mais alors là, pas du tout. Bonjour Alexandre.
Salut Pierre, comment ça va?
Ça va, ben ça allait bien avant qu'on apprenne toutes ces histoires de Cadillac Fairview et de surveillance non révélée au public. Bon, on a eu un rapport du commissaire à la protection de la vie privée du Canada là-dessus. Il se passait des choses pas très catholiques dans 12 centres d'achat, dont 2 au Québec, en particulier avec des bornes vers lesquelles les gens allaient pour demander, par exemple, où est H&M, où est Nike, où est ci, où est ça. Qu'est-ce qui se passait, Alexandre, avec ces bornes-là?
Ben, c'est des bornes, en fait, qui avaient une caméra qui était incorporée dedans. Puis la caméra, elle servait, en fait, à faire de la reconnaissance faciale. Donc, si Pierre Craig se présente devant la borne pour consulter la carte du centre d'achat, ben, il y avait un logiciel qui analysait son visage puis qui essayait de déterminer quel est son âge? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Donc, toi, probablement, ça serait quelque chose genre un homme de 30 ans, par exemple, quelque chose genre que le logiciel arriverait comme conclusion. Puis, aussi, une autre pratique qui a été révélée par l'enquête du commissaire, c'est que on stockait pas l'image de Pierre Craig dans les serveurs. Sauf que ce qu'on stockait, c'est toutes sortes d'informations numérique sur la forme du visage et tout ça pour pouvoir reconnaître la personne, puis aussi le lieu puis le moment où ça a été enregistré. Donc, il y avait une certaine collecte d'informations.
OK, mais chose importante, les gens qui allaient jouer là, avec cette borne-là ne voyaient absolument pas la caméra et n'étaient absolument pas informés de la présence de la caméra.
Non, ça se faisait pas mal à l'insu des gens. À peu près la seule information que les gens avaient à cet égard-là, c'est qu'il y avait un collant sur la porte quand on rentre dans le centre d'achat qui disait que vous pourriez être filmé quand vous rentrez dans le centre d'achat, puis que vous pouvez consulter notre politique de confidentialité si vous voulez. Puis Cadillac Fairview se défendait un peu en disant « Ben oui, on a une politique de confidentialité, les gens peuvent la consulter, mais je te pose la question, Pierre, toi, es-tu déjà rentré dans un centre d'achat une fois dans ta vie, puis as-tu déjà demandé à lire la politique de confidentialité du centre d'achat, être t'asseoir pendant une heure ou deux, puis à lire ça assisturement.
Certainement, comme je le fais avec toutes les applis que j'incorpore dans mon téléphone ou mon ordinateur, bien sûr, je n'ai que ça à faire dans mes journées, lire des contrats de 5 à 10 pages écrits en martien. Écoute, donc, le commissaire à la protection de la vie privée a blâmé Cadillac Fairview là, pour cette histoire-là. Cadillac Fairview disait « Non, il n'y a pas de problème, c'est anonyme. » Mais le commissaire à la protection de la vie privée du Canada avait une autre opinion, lui.
Oui, c'est ça. Cadillac Fairview, il disait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois sur la protection de la vie privée au Canada s'appliquent dans des situations où une entreprise, elle recueille des renseignements personnels. Donc, un renseignement personnel, c'est un renseignement qui peut être rattaché à toi d'une façon ou d'une autre, qu'il soit seul, combiné avec d'autres. Cadillac Fairview disait, on recueille pas de renseignements personnels, c'est complètement anonyme, cette reconnaissance faciale-là. Donc, on n'a pas besoin d'informer les gens, on n'a pas besoin d'obtenir leur consentement. Le commissaire est arrivé, il a dit, vous recueillez des renseignements personnels, puis même plus, vous recueillez des renseignements biométriques, des choses concernant l'identification de la personne, son visage. Et dans ces circonstances-là, la loi s'applique, puis vous deviez minimalement informer les gens convenablement puis obtenir leur consentement express pour faire ça. Le seul intérêt de cette décision-là, c'est que tous les autres commerçants qui pourraient avoir des pratiques de ce type-là vont peut-être être un petit peu mieux informés de leurs obligations légales, du moins de l'interprétation du commissaire, puis peut-être qu'on va être mieux informés de ces pratiques-là dans l'avenir. Là.
Il n'y avait pas que l'histoire de la borne, Alexandre. Je pense qu'on pistait les gens d'une autre manière. Et moi, ça vient me chercher un petit peu, là, parce que moi, me faire suivre personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, mais alors là, pas du tout.
Il y avait une deuxième pratique qui était reprochée à Cadillac Fairview dans cette affaire-là. C'était vraiment le pistage des cellulaires. Donc, le simple fait de rentrer dans un centre d'achat de Cadillac Fairview faisant en sorte que mon cellulaire il pouvait être suivi par l'entreprise. Donc, l'entreprise pouvait savoir dans quelle zone mon cellulaire se situe.
Est-ce qu'il pouvait aller fouiller dans mon cellulaire ou je non. faisais que suivre, okay, seulement suivre non. mes déplacements?
Oui, puis c'était de l'information très générale de type il y a tant de cellulaires dans telle zone du magasin, tant de cellulaires dans telle autre zone. C'est de l'information qui est assez générale. Puis là-dessus, le CPVP a dit ben écoute, ça c'est légal, même si les gens n'étaient pas informés de cette pratique-là, c'est tout à fait légal. Pourquoi? Parce que selon le CPVP, du moins dans ces circonstances-là, on considérait que tout ce qui était recueilli comme information sur les consommateurs, sur les gens qui visitent le centre d'achat, c'est de l'information qui est anonyme. Pas des renseignements personnels. Donc, la loi ne s'applique pas dans ces circonstances-là. Tout ce qu'on recueillait, c'est le numéro. On a un identifiant unique qui est lié à notre téléphone cellulaire. Tout ce qui était recueilli, c'était cet identifiant-là. Puis en plus, il y avait des méthodes de protection. Donc, il n'y a à peu près pas moyen, sans mettre de grands efforts, de remonter à Pierre Craig, de savoir que c'est le cellulaire de Pierre Craig, puis c'est Pierre Craig qu'on est en train de suivre. Donc, on dit alors, c'était correct comme pratique.
Mesdames et messieurs, je tiens à vous informer qu'Alexandre nous parle parfois en avocat. CPVP, ça veut dire commissaire à la protection de la vie privée du Canada, oui. N'est-ce pas? Mais bien sûr. Sérieusement, là, sérieusement, qu'est-ce que tu penses de cette position du commissaire à la protection de la vie privée?
Sur les cellulaires. Ouais, je te dirais, je comprends le raisonnement légal. C'est un raisonnement légal qui se tient, qui fait sens avec ce que la loi prévoit. Ça laisse un arrière-goût un peu étrange, par contre, parce que ce que ça nous dit, c'est que je peux rentrer dans n'importe quel commerce, n'importe quel établissement, ils peuvent pister mon téléphone cellulaire, puis s'ils le font d'une certaine façon là, qui protège bien l'identifiant, ben je n'ai pas vraiment de recours légal contre ça. Je ne peux pas m'opposer à ça. Donc, la seule façon que je peux me protéger contre ça, ben, ce n'est pas en ayant recours à la loi, c'est en développant là, des mécanismes d'autodéfense numérique pour essayer de bloquer l'accès à mon téléphone cellulaire. Donc, ça laisse un drôle de sentiment, même si je peux comprendre le sens de la décision.
On reste au centre d'achat. Mais là, on s'en va acheter des jouets pour nos enfants pour Noël qui s'en vient. Ouais. Et là, la surveillance se continue dans ces rayons-là avec les produits qu'on va acheter. Explique-moi ça parce que j'en crois à peu près pas mes oreilles.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas juste surveillé quand on va au centre d'achat. Les appareils qu'on achète nous surveillent aussi de plus en plus. Puis de plus en plus, là, tous les gadgets, tous les biens qu'on achète usuels, de plus en plus, tout ça est connecté sur Internet. Hein. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Puis vraiment, à peu près n'importe quel bien qu'on achète maintenant peut être branché à Internet. Donc, voiture, électro, thermomètre, ampoule, assistants vocaux. On achète un malaxeur, des aspirateurs, des lampes. J'ai même vu des toilettes connectées, Pierre. Tout ça, à peu près n'importe quel bien qu'on achète maintenant peut être connecté à Internet. Et ces appareils-là, ils peuvent avoir toutes sortes de capteurs dedans. Des caméras, des microphones, ça peut être branché à notre téléphone cellulaire aussi qui recueille des données. Donc, il y a une très, très grande collecte de données qui est très utile aux fabricants de ces appareils-là, qui peuvent être utilisés à toutes sortes de fins commerciales. Ça sert à bonifier les services, ça sert à toutes sortes d'utilisations. Un exemple, par exemple, j'ai vu aux États-Unis la brosse à dents connectée. Donc, ta brosse à dents est connectée à Internet. Et ce que le fabricant de la brosse à dents offre comme service, c'est de brancher ça avec ton assureur pour tes primes d'assurance dentaire. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont calculer ta prime d'assurance dentaire du nombre de brossages de dents que tu fais par jour, la façon dont tu te brosses les dents. Donc, c'est le genre d'utilisation qui pourrait être faite de ce type de données-là. Donc, très loin.
On pourrait rire longtemps là-dessus, tu sais, à quand les dépôts bancaires avec la brosse à dents, par exemple. Mais là où moi, je ne ris plus du tout, là, c'est quand tu m'as dit, quand on en a parlé ensemble précédemment, que il y a des jouets qui étaient d'une certaine manière connectés et ils étaient connectés avec des failles de sécurité. Et ça, c'est des choses que nos enfants ou nos petits-enfants, dans mon cas, prennent dans leurs mains et avec lesquelles ils s'amusent.
Oui, on a fait un rapport là-dessus en 2018. Il y a de plus en plus de jouets qui sont branchés à Internet. Souvent, le fait de connecter ce jouet-là, là, ça peut aider à faire de l'interactivité avec l'enfant, là. Donc, si c'est une poupée, par exemple, ben, l'enfant parle à la poupée, puis bon, on va sur Internet, c'est une intelligence artificielle sur Internet qui permet de répondre à l'enfant, là. Et l'enjeu de ces jouets-là, ben, un des gros enjeux, c'est vraiment la cybersécurité. Tous les appareils connectés, et particulièrement les jouets connectés, ont des grosses failles de sécurité. Souvent, il n'y a pas de mot de passe sur ces appareils-là, il n'y a pas d'encryption des données, il y a beaucoup de failles de sécurité, puis les pirates pourraient utiliser ces appareils-là, soit pour s'en prendre directement à l'enfant. Par exemple, il y avait une poupée, My Friend qui est là, qui a fait les manchettes là-dessus. Cette poupée-là, en fait, elle pouvait être facilement piratée, puis elle aurait permis à un tiers là, mal intentionné de s'adresser directement à l'enfant en parlant dans le micro. Ou encore, deuxième cas de figure, c'est toutes les données qui sont recueillies par le jouet, ben, elles pourraient être piratées, elles pourraient être usurpées, oui. Puis elles pourraient être utilisées à d'autres fins.
Moi, c'est pas la première fois que je vois ça. Quand j'étais à la facture, je te raconte très rapidement, j'avais fait un reportage sur Club Pingouin, là, qui est un jeu vidéo mis en ligne par Disney, et qui faisait une étude de marketing sur des enfants qui utilisaient ce jeu-là, à l'insu évidemment des enfants, et aussi à l'insu de leurs parents. Écoute, il y a au Québec quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. L'ancienne ministre de la Justice, Mme Lebel, a déposé un projet de loi, le projet de loi 64, qui vise à améliorer un petit peu le contrôle. Peux-tu me résumer ça, là? Est-ce que ça va vraiment nous aider? Et c'est en quel genre de chapitre, ce projet de loi-là?
Bon, je dirais le plus gros morceau, c'est un bon projet de loi. Je dirais que le plus gros morceau qu'il y a dans le projet de loi 64, c'est vraiment l'amélioration de tout ce qui est cybersécurité, sécurité de nos données personnelles.
Puis c'est un projet de loi. Fuite de données, là, on parle d'un cas de fuite de données, OK.
Puis ça fait suite à l'affaire Desjardins, évidemment. C'est dans la foulée de l'affaire Desjardins que ce projet de loi-là a été adopté. Donc, il va y avoir, par exemple, des obligations de faire des études préalables là, avant la mise en marché d'un produit. Il va y avoir des obligations de notifier les personnes qui sont victimes d'un bris de sécurité. Puis aussi des sanctions plus importantes pour les entreprises contrevenantes.
Donc, en matière de élevé, hein?
Oui, c'est ça. Donc, des amendes pourraient être très, très élevées pour l'entreprise qui protège mal nos données.
On parle de dizaines de millions, là, alors qu'avant, c'était des dizaines de milliers, mais là, on monte à des dizaines de millions de dollars d'amende.
Oui, on renforce aussi les pouvoirs de la Commission d'accès à l'information pour émettre des sanctions pécuniaires. Dizaines de millions, puis même, ça peut aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, donc ça pourrait coûter cher. Donc, il y a l'aspect cybersécurité, Pierre, mais il y a aussi l'aspect information. Il y a un certain renforcement du consentement. Donc, le projet de loi prévoit des obligations d'information un peu plus élevées là, en matière de protection de la vie privée qui pourraient peut-être là, contribuer là, à faire de la vie privée une considération plus importante pour les consommateurs. Là.
Écoute, on se parle depuis tantôt. Là. On sait vaguement que ça existe. Là. C'est sûr que Cadillac Fairview vient de nous remettre ça d'en face. On avait vu, évidemment, Cambridge Analytica avec Facebook. Tu dis que c'est un bon projet de loi. OK, ça marche. Est-ce que c'est un projet de loi qui arrive pas un petit peu en retard? Ben, quand je dis un petit peu, là, je suis poli. Là. Beaucoup en retard par rapport à la réalité numérique qui nous entoure?
Ben, ça arrive en retard, oui. Puis je dirais deuxième chose, c'est que ça ne règle pas tous les problèmes. C'est un projet de loi qui, oui, va sans doute renforcer là, la sécurité de nos renseignements personnels, mais ce n'est pas un projet de loi qui remet fondamentalement en question les modèles d'affaires qui sont basés sur la collecte de nos renseignements personnels. C'est un projet de loi qui reconfirme le modèle du consentement dans la loi. Puis moi, mon regard consumériste par rapport à ça, c'est que ça ne va pas assez loin. Juste dire qu'on obtient le consentement des consommateurs, comme on l'a vu dans l'affaire Cadillac Fairview, tout ce que dit le commissaire, c'est c'est pas interdit de faire de la reconnaissance faciale. Vous avez le droit d'en faire. Tout ce qu'il faut, c'est mieux informer les gens. Je ne crois pas que c'est assez. Moi, mon regard consumériste là-dessus, évidemment, c'est que je regarde ça si on prend comme comparaison le droit de la consommation, Pierre. Mm-hmm. Droit de la consommation, tu vas signer toutes sortes de contrats qui font 15-20 pages. Puis oui, OK, tu as donné ton consentement à ce contrat-là, sauf qu'il y a toutes sortes d'autres normes qui vont te protéger, contre, par exemple, okay, les clauses abusives, contre des frais interdits, contre des fausses représentations. On n'a pas vraiment l'équivalent en protection de la vie privée. Tout ce qu'on a, c'est que tu as donné ton consentement, puis les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent avec tes données ou à peu près.
Alexandre, on va vivre un moment solennel. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te nomme sur le champ premier ministre du Québec et du Canada. Tu as les deux rôles, là. Alors, non, sérieusement, si je te donnais le pouvoir, là, tu me dirais que ça prendrait quoi pour nous assurer une bonne protection?
Pas juste des meilleures lois. Oui, il faut se mêler des modèles d'affaires. Il faut mieux encadrer qu'est-ce que les entreprises font avec nos données, dans quel contexte elles les utilisent. La grande collecte de nos données, là, ça cause toutes sortes d'enjeux là, d'exploitation économique, de discrimination. Donc, il faut non seulement enquêter là-dessus, comprendre qu'est-ce qui se passe, mais donner aussi plus de ressources aux organismes qui sont chargés de nous protéger. On a parlé du commissariat tantôt qui n'a aucun pouvoir d'imposer des sanctions. Ça, il faut changer ça. Il faut que le commissariat soit capable d'en imposer. Il faut aussi, au Québec, on a un autre organisme équivalent qui s'appelle la Commission d'accès à l'information.
Qui protège la vie privée aussi. On connaît mal ce rôle-là, ouais, mais elle protège la vie privée, OK.
Mais qui sont largement sous-financés. Là. Ils reçoivent très, très peu d'argent. Donc, ces organismes-là ont besoin de plus de ressources pour appliquer les lois puis mieux défendre nos droits. Puis ça, c'est quelque chose qu'un premier ministre pourrait faire tout à fait, à mon avis. Hein.
Alors, je te dénomme premier ministre. Tu redeviens Alexandre Plourde, avocat chez Option Consommateur. Et je te remercie beaucoup. C'était pas mal intéressant. Merci, Alexandre.
Merci, Pierre.
Maintenant, avec Anne-Sophie Letellier, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal et cofondatrice du Lab 2038, on va voir comment on peut se protéger de ces surveillances électroniques non désirées. Bonjour, Anne-Sophie.
Bonjour.
Est-ce que toute l'histoire de Cadillac Fairview, ça t'a surprise?
Non, ça ne m'a pas surpris du tout, en fait. Pour plusieurs raisons, déjà, c'était une histoire qui était sortie de cela. Une histoire similaire qui était sortie de cela un ou deux ans. Et puis, justement, on parlait que il y avait ces technologies-là de AVA, donc dans le fond de captation vidéo anonyme, de l'analyse vidéo anonyme, hein, le AVA, qui était déployé dans des centres commerciaux. Et puis, on en avait déjà un peu parlé. Et puis, c'est pour ça que là, justement, je pense que c'est la suite des choses. Donc, c'est ouais, entre autres.
Non, à quel point on est bombardé par ça?
Vraiment partout, hein. Donc que ce soit notre vie en ligne, c'est plus un secret pour personne avec les réseaux sociaux. Quand on navigue sur Internet, il y a des cookies, des petits fichiers textes qui sont installés sur notre ordinateur de manière à nous traquer de site web en site web. Si on regarde aussi dans un contexte entre guillemets hors ligne, il y a justement ces analyses vidéo anonymes-là qui se passent dans les centres commerciaux, mais il y a aussi des bornes Bluetooth qui sont là pour un peu connaître, dans le fond, avoir de l'information sur les personnes qui viennent et qui magasinent. Donc, c'est vraiment, c'est ubiquitaire, en fait, cette captation-là.
Comment je peux me défendre de tout ça, moi? Mettons, là, on revient à notre affaire de bornes. Il y avait aussi les téléphones qui étaient pistés, hein? Ils pistaient les téléphones cellulaires. Bon. Comment, moi, je me défends? Bon, je ne vais pas... qu'est-ce que je peux faire? Se tenir loin de ces bornes?
C'est ça qui est vraiment problématique, je trouve, dans ce cas spécifique-là. C'est qu'on a très peu d'informations au niveau de la transparence, de qu'est-ce qui est ramassé, comment c'est utilisé et tout ça. Donc, déjà, on l'a dit, il y a un problème au niveau du consentement. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive si moi, je n'ai pas envie? Est-ce qu'il faut que j'évite à tout prix ces bornes-là? Quelque chose qu'on pourrait faire, c'est prendre l'habitude d'aller se promener dans les centres commerciaux avec des maquillages qui peuvent déjouer ces algorithmes de reconnaissance faciale, porter des masques. Puis c'est là qu'on voit que ça verse un peu dans l'absurde, hein? Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on peut faire à part ces affaires-là pour contrer directement ce type de saisie de données-là. Puis je pense que c'est là aussi que c'est hyper problématique. Et puis, après ça, c'est dire, un autre outil qui nous reste, c'est d'être capable de dire qu'on est contre et puis, dans le fond, de mobiliser des outils qui sont plus au niveau des politiques publiques. Hein. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est individuel tant que ça.
Si on regarde maintenant, là, bon, il n'y a pas que les bornes, mais le pistage des cellulaires, à chaque fois qu'on va sur un site, il y a des cookies et tout ça. Là. Comment on peut, rapidement, là, dis-nous comment on peut se protéger.
Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà là, moi, il y a une extension que j'aime beaucoup qui s'appelle Privacy Badger. Donc, c'est le blaireau de la vie privée. Donc, un blaireau? Non, je ne suis pas ça. En tout cas, Badger. Et puis, justement, c'est une petite extension qui s'installe sur votre navigateur. Ça prend 2 secondes. Et qu'est-ce que cette extension-là fait? C'est qu'elle prend l'habitude de connaître les différents cookies qui demandent à être installés sur votre ordinateur. Et puis, si elle voit que des cookies sont un peu trop insistants et vous pistent un peu trop de site web en site web, bien, il va les bloquer. Donc, ça, c'est une manière assez simple. J'aime utiliser le principe de la segmentation. Donc, on va rendre ça facile à comprendre, c'est simplement dire que parmi les acteurs qui sont les plus agressifs sur le pistage en ligne, ben c'est sans surprise les géants du numérique. Hein. Donc, c'est dire utiliser un navigateur pour aller sur Facebook, pour aller sur Google et tout ça, et puis un autre navigateur, par exemple Firefox, pour faire le reste des activités. Comme ça, les deux ne vont pas se parler. Et puis, dans le fond, Google et Facebook ne vont pas savoir ce que vous faites en dehors de votre navigateur.
Puis en terminant, là, pour mes applis, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on a full appli, comme on dit, là, comme disent les jeunes, là, on est full appli.
Ça, on peut faire ça en 2 temps. Premièrement, faire un bon petit ménage du printemps à chaque couple de mois, enlever les applications qu'on n'utilise pas. Et puis, pour celles qu'on n'a absolument pas le choix de garder, c'est d'aller dans les paramètres de vie privée et un peu essayer de restreindre les accès puis de dire, est-ce que mon thermomètre, par exemple, ou mon application de météo a besoin de savoir où je me trouve en tout temps, ou est-ce que je peux juste rentrer ma ville manuellement. Okay. Donc, c'est restreindre un peu ces accès-là, puis c'est d'aller jouer dans les paramètres.
Quand on s'en est parlé l'autre jour, tu avais une expression, là, tu as mentionné « kit data detox ».
Oui,
Qu'est-ce que c'est, ça?
Kit data detox, en fait, c'est une initiative qui a été faite par un organisme en Allemagne qui s'appelle Tactical Tech Collective. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont mis en ligne des outils qui sont traduits en français, justement, pour minimiser le plus possible la collecte de données qui est faite en ligne avec nous. Donc, c'est quelque chose, si c'est quelque chose qui vous intéresse un peu, comme on fait une détox alimentaire, ben eux, ils vous proposent une détox avec vos données personnelles. Et puis, c'est des opérations qui ne vont jamais prendre plus que 5 minutes à la fois. Donc, dépendant du temps que vous avez à mettre là-dessus, vous pouvez mettre 5 minutes par jour, 5 minutes par semaine, et puis comme ça, améliorer un peu votre hygiène numérique et minimiser qu'est-ce qu'on ramasse sur vous.
Anne-Sophie, tu travailles à l'Université du Québec et avec Alexandre d'ailleurs, vous allez, et peut-être avec d'autres gens, là, mettre sur pied quelque chose qui s'appelle le Lab 2038 ou 2038. Est-ce que tu peux m'expliquer là, en gros en quoi ça va m'aider ou en quoi ça va nous aider?
Oui, donc en fait, c'est le Lab 2038 et puis ça, c'est un organisme à but non lucratif qu'on est en train de lancer. Et puis 2038, en fait, ça fait référence à l'année du vrai bug de l'an 2000. Donc, c'est vraiment un organisme qui va être dévoué un peu à se préparer à toutes ces catastrophes, entre guillemets, technologiques-là. Et puis, notre objectif, c'est vraiment d'aider les citoyens à qui on ne parle pas de manière quotidienne de la sécurité numérique, de la collecte de données. Le but, c'est de fournir des informations, de relayer des outils, de commenter l'actualité, mais aussi de former différents groupes de personnes. Donc, que ce soit autant des consommateurs, des familles, des jeunes, des personnes âgées. On veut vraiment être, dans le fond, un organisme qui peut apporter un soutien et puis qui peut vulgariser ces informations parfois complexes-là sur l'environnement numérique. Oui. À des gens qui sont souvent laissés pour compte quand on parle de ces enjeux-là.
Et ça va être en ligne à quel moment, Sophie?
On espère, dans le fond, faire un lancement dans le prochain mois. Donc, il faut idéalement avant le temps des fêtes. Donc, vous devriez voir une belle description de tout ça. Et puis, il va y avoir un premier site en ligne et évidemment sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être là où les gens sont, même s'ils collectent des données sur nous. Donc, le but, c'est d'informer avant tout.
Il n'y a peut-être pas, comme on se le disait, une très grande culture du consentement au sein des entreprises qui nous filment, qui nous surveillent et qui nous pistent, mais il y a quand même moyen, on se l'est dit, toi et moi, de faire des choses. Puis grâce à des gens comme toi et Alexandre, il y a probablement moyen d'en apprendre beaucoup plus. Je te remercie beaucoup, Anne-Sophie.
Ça m'a fait plaisir.
Le gouvernement fédéral a-t-il eu vent du sujet de notre balado avant sa diffusion? Mystère et boule binaire. Toujours est-il qu'Ottawa a présenté un projet de loi pour protéger votre vie privée. Entre autres, et on en parlait à l'instant, la nouvelle loi veut rendre votre consentement clair et simple à donner au lieu de vous faire lire des pages et des pages de contrats. La loi vous permettra aussi de transférer plus facilement vos données d'une entreprise à l'autre ou alors de demander à ce qu'on les détruise. Enfin, on donnera plus de pouvoir au commissaire à la protection de la vie privée. Vous avez d'autres questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options consommateurs sur Facebook ou Twitter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Merci de nous avoir reçus. On se retrouve dans 2 semaines.